Nous vous proposons maintenant une conférence donnée dans le cadre du cycle Passeur d'Hommes, une conférence donnée le 26 novembre dernier au Christ-Roi à Toulouse par le frère Joseph Thomas Pigny sur le thème « Raison d'être de la nation, la justice et la paix ». Bonne conférence, bonne écoute.
Merci pour votre invitation, merci aussi pour votre courage. Non pas d'avoir bravé les éléments, ils sont plus cléments, mais d'être peut-être venu ici vous réunir pour rien. Ça commence mal. Vous réunir pour rien parce que est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire en parlant de nation ? À quoi sert-il d'en parler ? Et au passage d'ailleurs, est-ce que cette assemblée n'est finalement pas une assemblée un peu suspecte ? Elle serait tellement au-delà du politiquement correct qu'elle aurait quelque chose d'un peu sulfureux. C'est vrai que cette pauvre nation, elle est à minima mise au banc, ça c'est certain, pour plusieurs raisons, ou en tout cas, il y en a plusieurs manifestations. D'abord, elle semble irrémédiablement disqualifiée. La nation, c'est, dans une représentation de plus en plus répandue, dans une conception de plus en plus répandue, un drapeau, un totem fiché sur un monceau de cadavres. Le fruit délétère du nationalisme, du bellicisme qui irait avec le nationalisme, et dont la dénonciation est devenue, comme il nous a été dit, un lieu tout à fait commun. Elle est aussi, pour nous Français notamment, mais pas seulement, les Italiens pourraient dire la même chose, elle est gorgée de sang et de larmes, de sang et les larmes versées lorsque son autorité politique, comme titulaire de la souveraineté, a prévalu, ou en tout cas qu'on a cherché à la faire prévaloir pendant la révolution de 1789. Donc, c'est une idée politique moderne, peut-être parée de gloire par certains aspects, mais qui ne semble mobiliser qu'au prix et moyennant de très lourds sacrifices, des sacrifices extérieurs et des sacrifices intérieurs aussi. Ici, nous sommes en terre occitane. Moi, je viens de Provence. Je suis moitié provençal, moitié corse. Donc ici, et de là d'où je viens, l'unité nationale, on sait que ça se paie à un prix fort élevé, très élevé. Donc le souvenir de l'idée de nation, c'est un souvenir qui peut être mitigé, disons cela, au regard d'un certain nombre de références historiques, et qui s'est traduit par la perte de solidarité plus restreinte, par la substitution ou l'essai de substitution violent, stigmatisant, humiliant d'une identité à une autre. Une identité qui avait l'air, dans certains cas, plus factice, plus forgé, moins enraciné. Tout cela, et si on y ajoute de surcroît aujourd'hui ce qui est tout à fait à la mode, c'est-à-dire que la nation, c'est un truc d'oppression occidentale, chrétien, blanc et plutôt masculin, autant vous dire que la disqualification morale est totale. Donc pourquoi nous être réunis ? C'est le mois des morts, c'est certain, mais là, nous sommes penchés sur un cadavre, et un cadavre qui exhale encore. La voilà disqualifiée moralement, la nation, pour beaucoup de nos contemporains. Elle apparaît aussi définitivement dépassée. Ça, c'est une autre raison pour beaucoup, de tirer un trait qu'ils pensent définitif sur la nation. Elle est dépassée parce que les échanges, les circulations de tous ordres dépassent largement le cadre national, avec tout ce que ça peut avoir de romantique, hein. Le paradigme Erasmus, on va appeler ça comme ça. Hein, voilà. L'homo touristicus. Mais le fait d'être citoyen du monde, de circuler, voilà. Bon. De sorte que ce qui reste de l'identité nationale, c'est le concours de cocktails qu'on peut faire dans un bar, comme citoyen du monde, à un endroit donné, et dont il restera uniquement quelques vapeurs. Les défis et les problèmes aussi. Et là, sans ironie, c'est effectivement un constat difficile à nier, beaucoup de problèmes et de défis se situent désormais à un échelon et à une ampleur qui rendent inopérant le cadre étatique national. Donc la nation, là, et sa forme juridique traditionnelle, en tout cas classique, plutôt que traditionnelle, qui lui est associée, l'État, ben, ça ne marche plus. Donc finalement, le bébé est à jeter avec l'eau du bain et tout y passe. Comme sujet titulaire de la souveraineté, parce que ça c'est en grande partie sa justification historique, comme idée politique, comme réalité, comme concept politique à tout le moins, ben, la souveraineté elle aussi apparaît dépassée. La souveraineté politique, ben, il n'y en a plus. Hein ? Je crois qu'il faut se le dire sans se faire trop de peine. Bon, il n'y en a plus. La souveraineté juridique, celle qui est la traduction de la souveraineté politique, eh bien, à partir du paradigme national et d'un ordre juridique structuré sous une forme qu'on va qualifier schématiquement de pyramidale, ben, ça n'a plus l'air de marcher non plus. D'autant que ce qui est l'apanage juridique de la souveraineté politique, le fait de pouvoir produire ses propres normes, d'être autonome au sens premier du terme, ben, ça, matériellement et même formellement, désormais, c'est dépassé. C'est fini. Bon, la loi de France n'est plus une loi française. Et quantitativement, c'est un constat écrasant. Écrasant. C'est contre le sens de l'histoire aussi, nous dit-on. Le sens de l'histoire, ce sont des ensembles coordonnés, des échelons régionaux de puissance pour faire le poids, pour faire des économies d'échelle, puisqu'il paraît qu'à Bruxelles, on fait des économies d'échelle. Je ne sais pas si c'est un diviseur d'être 27. Ça m'a plutôt l'air d'être un coefficient multiplicateur en termes de coûts, mais il paraît que potentiellement, on peut faire des économies avec ça. Donc il faut trouver une taille, et on semble être à bien au-delà désormais, à l'échelon pertinent, bien au-delà du niveau national. Donc c'est dépassé, puis ça ne va pas dans le sens de la paix, ça ne va pas dans le sens d'un gouvernement mondial que depuis le XVIIIe siècle, et même un peu avant, alors je fais référence au XVIIIe siècle parce que je pense à l'abbé Prévost, je pense à Kant, projet de père perpétuel de Kant, que depuis le XVIIIe siècle on défend, hein, et que de grands penseurs, philosophes et juristes aussi, au XXe siècle, et notamment après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont continué à défendre. Et on est encore porté par ça. Donc, là, c'est plus seulement un cadavre, ou c'est un autre genre de cadavre, si vous voulez. Là, ce n'est pas la disqualification qui la frappe, c'est l'inutilité, l'inopérance. C'est une momie, la nation. Voilà, entité momifiée. Elle est rangée quelque part dans un sarcophage, témoignage en sous-couche de quelque chose qui a été, voilà, et qui n'est plus. Sa troisième disqualification ou sa troisième raison d'être écartée, c'est de surcroît qu'elle n'aurait plus d'existence. Entre le délitement et le dénigrement, dans une espèce de dialectique où on ne sait pas qui du dénigrement ou du délitement a commencé, finalement. Les deux s'entretiennent et tournent de plus en plus vite, telle une toupie. Une espèce de dialectique mortifère pour la nation. Donc là, si elle n'est pas morte, elle est mourante. Alors pourquoi s'être réunis un mardi soir, le 26 novembre, pour parler d'un cadavre ou d'une momie ou d'une mourante, hein, dont je devrais donc parler à voix basse, puisque nous serions à son chevet, en quelque sorte. Mais c'est que la mourante bouge encore, ou que le cadavre a l'air encore de remuer. Alors là, ça serait la nation zombie, si vous voulez. Bon. Sortie du tréfonds, elle bouge encore et elle fait peur. Elle fait peur, comme dans un film d'horreur. La nation zombie se promène. Et c'est vrai qu'on la voit s'agiter, là. On a eu l'impression qu'effectivement, ça se terminait paisiblement. Et ça n'a pas l'air de se terminer paisiblement. On semble être, et là je parle d'une époque très contemporaine, qui nous est tout à fait contemporaine, dans une phase de résistance. De réveil, je ne sais pas, mais en tout cas de résistance. Ça, c'est certain. À constater, pour s'en convaincre, la vivacité dans le monde des mouvements politiques qui placent la nation elle-même, son cadre, ses valeurs, ses intérêts, en tête ou en place éminente dans leur discours. Ce n'est pas ce que j'appellerais des mouvements nationalistes, c'est plus large que ça. Là-dedans, il y a aussi du nationalisme. Mais si on fait un vaste balayage mondial, on se rend compte que ça, c'est un vrai phénomène mondial, celui-là, en ce moment. Baroud d'honneur, nouveau cycle, en tout cas, quelque chose est en train de se passer qui justifie l'effroi des bonnes rédactions, des bons journaux et des bons médias. Phénomène difficile à expliquer par une grille de lecture traditionnelle, mais là derrière, il y a bien quelque chose qui traîne et qui a l'air de ressembler à la nation. Et qui vient s'ajouter à, ou qui vient s'inscrire dans un mouvement qui a l'air encore plus vaste, un mouvement qui est une espèce de mouvement de réaction à l'échelle mondiale, et est très fréquent ces derniers jours, ces dernières semaines en Amérique latine, par exemple, en Amérique du Sud, où là, c'est pas sur un discours ou des motifs nationalistes, mais ça s'inscrit, cette résistance, dans un vaste, très vaste mouvement à l'échelle mondiale visible de réaction à la globalisation. De réaction à la globalisation et à ses conséquences. À ses conséquences déstructurantes. À ses conséquences substitutives d'un ordre dans lequel chacun semblait, même fictivement, trouver un statut, une place, y compris fictivement, par une participation politique, pas forcément réelle, mais fictive, mais il y a une espèce de départicipation, il y a une autre structuration qui a l'air, celle-là, de se faire sur des critères sociaux, économico-culturels, l'accès à des réseaux, un certain niveau de richesse, Alors on peut analyser ça par diverses grilles. Certains proposent, vous avez peut-être lu à l'échelle française le livre de Monsieur Sainte-Marie, un livre qui est sorti il y a quelques jours, qui s'intitule Bloc contre bloc. On dit c'est peut-être un retour de quelque chose qui serait la lutte des classes 2.0. Quelque chose qui est donc pas un phénomène qui peut se comprendre par une grille nationale, mais dont on peut analyser la réaction à cette évolution par une grille de lecture qui inclut la nation. En tout cas, en faire l'hypothèse. Et ça se complique, parce que dans cette réaction, il y a d'autres formes d'agrégation et de manifestation de solidarité, contraires à la nation ou opposées à la nation, ou en tout cas très divergentes d'elle, ce que nous, dans le vocabulaire commun français, nous appelons le communautarisme. Là aussi, c'est l'affirmation parfois radicale de formes de solidarité qui se revendiquent à partir d'identités très marquées, très assumées, mais ce n'est pas la nation. Nous, Français, nous sentons bien la différence. Pour d'autres qui n'ont pas la même histoire, la même culture politique, n'ont pas le même rapport à ce phénomène. Mais ça introduit un élément de complexité supplémentaire qui, la complexité étant là, ne rend pas forcément obsolète donc la grille nationale. Alors il y a une espèce de résistance. Et il y a à tout le moins une forme de résilience, semble-t-il. Parce que on voit quand même se manifester de temps en temps une espèce d'élan national. Alors il est d'une pauvreté, d'une brièveté tout à fait pathétique, parce que là, ça se manifeste dans le « on a gagné », par exemple. Mais il suffit déjà qu'on descende les Champs-Élysées pour voir d'autres drapeaux que le drapeau national. Donc ça dure 90 minutes, en fait, le temps d'une finale. De temps en temps, ça nous saisit comme ça. De temps en temps, une belle réussite fait vibrer, titille quelque chose qui reste du sentiment national. En positif, ou pour les joies, comme pour les peines. Recevoir la nouvelle de 13 militaires tués au Mali, ça nous touche. Des pères de famille, des époux ou des compagnons, des fils, des frères, des neveux, qui pourraient être les nôtres. Mais si nous regardons bien, si nous analysons bien notre sentiment de tristesse, il n'y a pas que ça. Ce sont des étrangers pour nous. Et il y a quelque chose de particulier qui nous touche. Quelque chose qui se situe dans un ordre qui est celui, visiblement, d'une résilience du sentiment national. Il y a quelque chose qui se sent blessé. Un attentat, une série d'attentats le 13 novembre 2015 dans Paris, des attentats meurtriers, et il y a quelque chose qui est blessé. Un attentat le soir du 14 juillet 2016 à Nice, et il y a quelque chose qui est blessé et en plus profané le 14 juillet. L'Arc de Triomphe saccagé, ce n'est pas le monument, c'est ce qu'il représente qui touche aussi. Ça, ce sont des indices de la résilience. Donc nous ne sommes pas au bout de nos peines si nous nous intéressons à la nation. Mais en réalité, et c'est le moment d'y venir, de quoi parlons-nous ? Essayons une première définition, parce qu'il va nous falloir faire un peu enquête, justement, sur la persistance et sur la pertinence de la nation. Au regard d'un sujet que j'ai eu le tort d'accepter, sous cet intitulé-là, La raison de la nation, justice et paix, j'espère m'en sortir, c'est vous qui me le direz. Là, pour l'instant, on a tiré dans le tas, si je puis dire. Bon, et on a vu que le bonhomme bougeait encore. Bon. Alors, maintenant, il faut regarder cela de plus près. Et pour faire enquête, essayer d'avoir une première définition qui nous permette d'identifier notre objet. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est une collectivité de type communautaire. Alors, si je précise cela, c'est pour faire référence à des distinctions classiques chez les sociologues, alors chez Ferdinand Tönnies notamment, un sociologue allemand du XXe siècle. Quelque chose qui est repris par d'autres sociologues, la distinction entre communauté et société, dans le patois Gemeinschaft et Gesellschaft. Voilà. C'est une Gemeinschaft, c'est une communauté, ce n'est pas une société. C'est une communauté durable, une communauté humaine, de relations et d'actions s'inscrivant dans l'ordre politique et qui est identifiée de manière spécifique, qui n'est pas une communauté d'intérêt matériel, qui n'est pas un simple périmètre d'échange matériel. Elle peut être ça, mais elle n'est pas spécifiée comme cela. Elle n'est pas un périmètre de production et d'échange. Ça n'est pas non plus une communauté de sang. Elle lie, elle regroupe des personnes qui ne partagent pas une fratrie de sang, qui ne partagent pas de lien de parenté, qui partagent des liens d'un autre type. Si cette définition agrée, si elle peut être opérante, elle est déjà riche d'enseignements à ce stade, parce qu'elle inclut d'évidence une dimension immatérielle, peut-être d'abord immatérielle. Ensuite, parce qu'elle implique ou induit, exige, suppose aussi impérativement une dimension culturelle. Qu'elle suppose aussi impérativement une dimension affective. Il y a une question de sentiment là-dedans, il y a une question de ressenti. Il y a une question d'identification affective, il y a quelque chose de psycho-affectif même là-dedans. Il y a des ressorts profonds qui sont mobilisés. Ce n'est pas qu'un objet rationnel, c'est même un objet peu rationnel. Il y a un pensé et un impensé. C'est un concept politique, mais qui véhicule, qui est tramé, qui est nourri, qui peut être généré par des représentations, des mythes, tout ce qui forme ce cadre ou ce substrat impensé de l'univers mental dont on a besoin pour expliquer sa propre existence, pour expliquer pourquoi on obéit, pour expliquer ses raisons d'agir. Et qui s'inscrit aussi dans la nature humaine. Il y a quelque chose qui est profondément lié dans la nation, si nous la comprenons ainsi, au fait que l'homme est un animal social, comme le dit Aristote. Alors on traduit par ce zoon politikon, par animal politique, mais alors il faut bien s'entendre sur ce qu'on soit comme politique. Alors, le terme d'animal social, animal de sociabilité. Voilà, être animé dont une des dimensions naturelles capitales est qu'il est sociable. Là, c'est très important, avec ses semblables. Donc, nous commençons à comprendre tout ce que nous avons dit du procès de la nation, en quelque sorte, de la condamnation à mort de la nation, doit être ajusté, doit être révisé. Il faut un examen en appel. En tout cas, il faut une nouvelle enquête. Il faut rouvrir le procès pour ajuster les choses et les clarifier et clarifier le sens et la portée des critiques et des objections. Ce qui peut permettre alors de se demander si la paix exactement définie, c'est-à-dire comme le dit saint Augustin, la tranquillité de l'ordre, pas l'absence de conflit. C'est quelque chose de plus grand et de plus fondamental que l'absence de conflit. La tranquillité de l'ordre. Cette situation où les choses sont tranquilles en tant que leur rapport et leur ajustement est conforme à ce qui a été initialement fixé, arrêté. Et qui pour nous, nous fait très aisément comprendre que la paix véritable, si elle est définie comme ça, elle est ultimement et véritablement paix de Dieu et en Dieu. Cette paix ne pourrait-elle alors pas être servie par la nation et pas combattue par la nation ? La nation comme un lieu de paix, un lieu de pacification. La nation comme un facteur de paix. Et la justice, cette justice dont l'apôtre Saint Jacques nous dit qu'elle est semée dans la paix et donne son fruit aux artisans de paix, hein, dans son épître, chapitre 3, verset 18. Cette paix ne peut-elle pas être servie dans l'ordre politique par la nation, dans l'ordre de la cité, comme la nation comme un cadre de la justice, la nation comme une servante de la justice, participant à rendre à chacun ce qui lui est dû, et notamment en rendant ce qui leur est dû à ceux qui n'ont que le bien commun pour bien propre, qui n'ont rien d'autre. Pour le dire autrement, la nation, c'est d'abord le bien des pauvres, des plus pauvres, ceux qui n'ont pas autre chose. C'est une des raisons, parmi d'autres, qui pourra justifier, au fur et à mesure de notre réflexion, pourquoi il est important de ne pas jeter la nation par-dessus les moulins. Alors voilà ce que nous allons essayer de faire. Essayer de montrer que la paix et la justice s'accordent à la nation et que la paix et la justice ont besoin de la nation. La paix et la justice s'accordent de la nation parce que la nation est un moyen de garantir paix et justice. Pour le comprendre, il faut commencer, en jouant un peu sur les mots, par faire justice, par rendre justice à la nation. Il faut clarifier un certain nombre de choses. Ce qui permettra, en ayant rendu justice à la nation, de voir la justesse de la nation. Justice pour la nation. Et là, je crois qu'il y a trois clarifications à faire. La première, c'est qu'il existe au moins deux conceptions de la nation. Il faut bien s'entendre sur ce dont on parle. Il y a une conception que classiquement on a appelée objective et qu'on identifie plutôt comme conception germanique de la nation, celle qu'a théorisée l'un des premiers, cet auteur, qui est d'abord un auteur littéraire plutôt que philosophique, Johann Fichte, dans un grand écrit de 1808, Le discours à la nation allemande. La nation, c'est la communauté historico-culturelle et ethnique de ceux qui partagent un certain nombre de traits objectifs en commun. La langue allemande et des traits historico-ethnique. Là, on est allemand. Mais si on est autrichien et qu'on ne veut surtout pas être allemand, on est allemand. Si on est alsacien et qu'on ne veut surtout pas être allemand, on est allemand. Voilà. Donc c'est une question, d'où le qualificatif, d'abord objectif. C'est un héritage, ce sont des données principalement historiques, mais qui incluent aussi une dimension ethnique. Donc c'est très très difficile, quand on regarde une compétition sportive avec, disons, des sujets germaniques, et qu'il voit nos équipes sur le terrain, ça commence, pas toujours, mais souvent, par une forme de haussement de sourcils ou de ricanement. Wo sind die Franzosen? Ils sont là? Non. Wo sind die Franzosen? Où sont les Français sur ce terrain? Il n'y a que des Noirs. Où sont les Français? Alors là, nous, on commence une explication parce qu'on a une autre conception, nous, de la nation. Il y a une conception dite française de la nation. Celle qui s'est exprimée dès la fin du XVIIIe siècle, déjà chez l'abbé Sieyès, dans son « Qu'est-ce que le tiers-État ?», hein, quand il théorise, lui, la souveraineté de la nation, il donne déjà une définition de la nation que, comme nous l'a rappelé Henri tout à l'heure, on doit en fait surtout à Renan, Ernest Renan. Le grand texte, là, le texte dont nous avons entendu une citation tout à l'heure, c'est ce discours « Qu'est-ce qu'une nation ?» qu'il a prononcé le 11 mars 1882 en Sorbonne et qui a été publié en 1887, où il développe des idées dont il n'est pas le pionnier. Fulstel de Coulanges, en 1870, devant son Alsace envahie, avait dit des choses tout à fait similaires, que la nation, c'est, il y a les belles formules de Renan que vous connaissez, un plébiscite de tous les jours, une âme, un principe spirituel. Je continue la citation que nous avons entendue tout à l'heure. Une nation est donc une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Je me résume, messieurs. L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes des montagnes. Une grande agrégation d'hommes, saine d'esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Donc là, on n'est pas, selon la formule traditionnelle, mais qui a toujours cours, on n'est pas français par le sang reçu, on l'est aussi par le sang versé, par exemple. On est français parce qu'on adhère, qu'on fait sien cet héritage, cet ensemble de valeurs, de principes, cet héritage historique, où la composante ethnique est tout à fait mineure. C'est très simple, en fait, d'ailleurs, pour un Français de s'en détacher tant cette identité française est composite. Elle est faite par assimilation, dans une grande diversité. Dominante ethnique, elle serait quand même un peu difficile à trouver. Il y a surtout un héritage culturel, un héritage historique, des dates, des personnes, des valeurs, des principes, des œuvres, une idée de beauté, une idée de grandeur. Voilà. Et cela, on peut y adhérer. Même si on n'est pas d'ici, on peut le devenir. Pour peu que l'on y adhère. Et si l'on est d'ici, il faut y adhérer chaque matin. Un plébiscite de tous les jours. Il ne s'agit pas d'être né français, il s'agit de l'être. Et il s'agit de l'être tous les jours. Et ça recommence tous les matins. C'est ça que nous dit Renan. Donc deux idées différentes, dont une, évidemment, ouvre des perspectives, elles aussi, très différentes. Première clarification. Deuxième clarification. Elle est relative à la naissance de l'idée politique nationale. Quand les choses commencent-elles à se forger, à se dessiner? Quand se dessine ce type politique, cet objet politique, dans l'Occident médiéval, entre les cités, et on en avait dans l'Occident médiéval, en Italie en particulier, en Allemagne, entre les cités d'un côté, donc une entité restreinte, qui est une entité politico-économique, et de l'autre, l'Empire, l'idée d'une unité sous un seul pouvoir de personnes complètement diverses. Entre cité et empire, qu'est-ce qui s'est dessiné dès le Moyen-Âge classique? La monarchie nationale. On va la qualifier de nationale un peu par anachronisme, mais c'est cet échelon intermédiaire qui veut rechercher une unité qui dépasse les féodalités et les cités, tout en affirmant son indépendance vis-à-vis de l'Empire au nom d'une revendication d'indépendance dont le périmètre est délimité par une identité. C'est le fait d'être sujet d'un souverain donné. Alors c'est pour ça que, sans trop d'anachronismes, on fait remonter dans les livres d'histoire de la Troisième République, la naissance de tout ça, par exemple, à la bataille de Bouvines. Ça nous emmène loin, ça, 27 juillet 1214. Mais là, face à une armée plus nombreuse et, on va dire, composite, sous la conduite d'Othon, l'empereur, voilà le roi de France, ses alliés et les corps de milice envoyés par les cités. À Bouvines, 2000 miliciens envoyés par Paris, dont 1750 mourront à Bouvines. Et la victoire le soir du 27 juillet. Belle victoire militaire, mais surtout un très très grand symbole. Alors, il y a un peu de relecture dans tout ça, mais il y a un germe de vérité, assurément. Donc l'idée de nation, elle est liée historiquement à l'idée d'indépendance en même temps que la recherche d'une unité. Et elle devient le périmètre du pouvoir souverain. Et c'est après, dans une autre évolution, qu'elle en devient le titulaire de la souveraineté, que la couronne du souverain change de tête. C'est ce qu'explique très bien Tocqueville dans l'Ancien Régime à la Révolution, c'est ce qu'ont expliqué d'autres auteurs. Ce n'est pas une autre forme de souveraineté, c'est la même souveraineté avec la même théorie de la souveraineté, mais la couronne change de tête, elle passe du roi à la nation. Et l'État, dont un grand constitutionnaliste français a dit classiquement qu'il était la personnification juridique de la nation, là on est vraiment dans la définition de l'État-nation, l'État en est en quelque sorte le bras, la mise en action. Alors tout ça a l'air très simple, ne l'est pas du tout, et c'est là que se situe le germe et le mécanisme des dérives. Donc si on comprend l'histoire de la nation, qui au départ est quelque chose de tout à fait inoffensif, c'est le regroupement des étudiants qui parlent la même langue dans les collèges des universités médiévales. La nation provençale, la nation allemande, la nation anglaise, bon, ils se regroupent par collège parce qu'ils sont nés au même endroit. Voilà, le terme nation trouve son étymologie dans Nascor, hein, naître. Et ceux qui sont du même coin. Voilà, et qui parlent la même langue. Ça, c'est important. Voilà comment on en est venu à une construction bien typée, quand même. Troisième clarification. Précisément celle de l'État-nation. Réalité particulièrement française, où la nation, comme périmètre politique, doit aussi sa construction à une action très volontariste des titulaires du pouvoir politique. Pourquoi ? Parce que ce périmètre de la souveraineté, ce périmètre personnel de la souveraineté, pas territorial, là, personnel de la souveraineté, défini par une identité, il devient un instrument de l'État. Voilà comment elle naît cette dérive. Il devient, et c'est une instrumentalisation décisive, c'est une instrumentalisation qui sert de principe de légitimité. Ce qui soulève le problème de l'association de la nation à une autre idée, celle de la citoyenneté. Ça aussi, c'est un autre débat. Citoyenneté, nationalité. Et la contestation d'un lien indissociable et automatique. Bon, t'as une question à tiroir, hein, celle-là. Une question bien compliquée, qui n'est née que d'une dérive. D'une dérive consistant à faire de la citoyenneté, en réalité, d'abord un critère de sujétion. Et dans la conception moderne, c'est ce qu'elle est. Quand je suis citoyen, mais non, je suis libre, mais pas du tout. Oui, mais j'ai le droit de vote, j'ai des droits politiques. Oui, vous avez donc le droit de participer au processus de légitimation de votre obéissance. Et si des droits vous sont garantis de par ce statut, ils sont le moyen de tempérer, mais pas d'annihiler votre obéissance. Ce qui fait le cœur de la question du citoyen, c'est qu'il obéit. Alors il obéit en participant. Oui. Voilà, c'est la... Si vous voulez, c'est la dinde qui fête Noël, comme on dit chez les contestataires. Voilà. Bon, c'est le... Ou selon une formule marxiste bien connue, les moutons qui votent pour l'abattoir. C'est très rude, mais il y a un petit germe là-dedans de vérité tout de même. Alors le problème, donc, c'est pas la nation. Le problème, ce sont les dérives de la nation. C'est la dérive d'une conception qui conçoit la nation par annexion et pas par adhésion. L'idée, donc, que la nation puisse être ce tout où l'individu est fusionné, en quelque sorte, où son adhésion n'a plus d'importance. Une conception qu'on qualifie de holiste de la nation. Un tout dissolvant, c'est parti. Absorbant, c'est parti. Le problème, c'est la laïcisation et la déchristianisation du sens politique. Lorsque ce qui est une communauté d'hommes devient un alibi du pouvoir d'État, qui s'affranchit des limites dès lors qu'il est le mandataire légitime, c'est-à-dire d'abord légal, de ce sujet qui est effectivement le titulaire de la souveraineté, mais qui n'existe pas, que vous ne rencontrez pas, qui ne se met à exister qu'au moment où il donne son mandat, c'est-à-dire au moment où il remet entre les mains de quelques-uns le pouvoir d'exercer cette souveraineté. Donc ça a un côté empereur du Japon face au shogun, si vous voulez. Hein? Où est-il concrètement, pratiquement, le souverain? Il y a un souverain d'imputation, mais le souverain d'exercice, où est-il? C'est ça le problème. C'est là qu'ils viennent, c'est de là qu'elles viennent les dérives. De même que c'est l'exaltation de la nation, sa divinisation, la terre et les morts de Barrès, le nationalisme intégral de Maurras, leur version encore plus durcie, italienne, allemande, qui sont le problème. Mais si, en revanche, on écarte cette vision, si on les corrige, si on en est conscient de ces dérives, si on est calé sur une idée des nations comme communauté d'adhésion volontaire, comme communauté de socialisation et d'action politique à partir d'une identité partagée, comme communauté de transmission, comme une communauté qui n'est pas sa propre fin et qui ne contient pas son propre principe. Alors, là, il y a une vraie justesse de la nation pour comprendre un certain nombre de choses fondamentales, pour comprendre qu'elle est une communauté fondamentale et essentielle de la sociabilité naturelle de l'homme dans la dimension politique, au point que dans l'enseignement de l'Église, on peut donc la ranger parmi les communautés naturelles, mais parce qu'elle est l'expression comme communauté de ce qui est inscrit comme sociabilité dans la nature humaine. S'inscrivant là dans l'ordre politique, avec la famille qui, elle, s'inscrit dans un autre ordre. Donc la sociabilité dans la dimension politique, celle de la cité, celle du bien commun de la cité. Donc ça veut dire qu'elle ne relève pas d'une pure convention. Donc qu'elle se reçoit telle qu'elle est. Et que l'on y adhère, on la fait sienne. Il faut la faire sienne. Et théologiens et moralistes nous disent qu'elle relève non pas effectivement du vouloir naturel, elle relève du vouloir électif, elle relève de ces choix que nous faisons qui sont libres dans leur ordre d'exercice, mais qui sont, comme l'on dit, aussi libres dans leur ordre de spécification, qui ouvrent à une vraie liberté quant au choix des principes et des moyens. Je suis pas libre de décider de ne pas manger. Je suis libre de choisir ce que je vais manger. Ça, c'est de l'ordre du vouloir naturel. La nation, c'est d'un autre ordre. C'est de l'ordre du vouloir électif, précisément. Alors, je comprends aussi que la nation a quelque chose de très juste parce qu'elle me fait comprendre la dimension historique de l'homme. La nécessité vitale pour l'homme de l'appréhension de sa généalogie et du processus de tradition pour l'homme. Et que donc, vis-à-vis de la nation, et dans cette tonalité particulière, et il ne faut pas opposer en les durcissant, en durcissant l'opposition, les deux concepts, même s'il faut les distinguer. La patrie, eh bien, c'est un sentiment de piété que je lui dois. Le sentiment que l'on doit à ce que l'on reçoit de ses pères. C'est la pietas qui lui est due. C'est cette forme-là de la vénération qui lui est due. Sans idolâtrie, mais pas moins que ça. Et c'est là, par là, que se construit l'homme. Mais en même temps, cela me fait comprendre que le déterminant principal de l'homme n'est pas la nation. D'abord parce que la personne prime sur le groupe. mais aussi parce que l'homme se caractérise dans sa dimension la plus haute par sa dimension eschatologique, une dimension que n'a pas la nation. La nation, elle a une dimension historique et elle s'inscrit dans l'eschatologie. La nation, cela me permet de le comprendre aussi, elle préexiste donc aux formes politiques. Elle préexiste à l'État, évidemment. C'est ça aussi qui est ton ordre de naturel, en quelque sorte. Alors si elle est un lieu qui permet la paix et la justice, comment les sert-elle? Elle est cadre de paix et de justice parce qu'elle exprime le besoin d'identité de l'homme et la dimension fondamentale de la transmission qui constitue la personne humaine. Une transmission autre que génétique, cette part qui nous fait qui n'est pas génétiquement transmise. Et dans cette part, il y a quelque chose qui fait partie, ou dont fait partie, ce qu'on appelle la nation. Que cette identité est partie prenante du bien commun, et que donc la nation peut être un cadre de fraternité, peut être un cadre de cette amitié civile dont parle saint Thomas d'Aquin, qui est la forme aboutie de la sociabilité humaine. Cette forme qui va au-delà, ou qui, sur un autre terrain, pas au-delà de l'amitié élective, qui s'inscrit précisément dans cet ordre politique et qui est donc animé par la charité. Alors voilà comment la nation permet de domestiquer le pouvoir, par la légitimation, mais parce qu'elle permet de comprendre aussi que l'autorité est au service de la communauté, de la collectivité. Et donc qu'elle peut être, la nation, au service de la paix, y compris entre les nations. Parce que cette conception-là n'est pas une conception de fermeture. Elle est forcément une conception d'ouverture. Défendre la nation, c'est défendre toute nation. Défendre la nation, c'est le faire donc, en la considérant comme telle, au nom de principes qui font que la minorité culturelle doit être défendue. Et la conception authentique de la nation, c'est une conception non pas de l'identité défendue, mais de l'identité offerte. Je suis qui je suis, non pas pour garder ce que j'ai, mais pour l'offrir au reste de l'humanité. Si je défends mon identité française, c'est pour l'offrir au monde et pour l'offrir à l'histoire, pour lui apporter quelque chose. Parce que ce qui fait les relations humaines, ce n'est pas le partage. Ce n'est pas le partage de musique, ce n'est pas le partage sur Facebook. Ce n'est pas le partage de la carcasse entre deux chacals. Ce qui fait la relation humaine, c'est l'échange, pas le partage. Et si j'échange, c'est que j'ai quelque chose à donner et que j'ai quelque chose à recevoir. Et dans l'ordre politique, voilà ce que j'ai à donner. Mon identité nationale, et voilà ce que j'ai à recevoir. Et je peux comprendre alors même la nation, non pas comme seulement quelque chose de statique, mais comme un processus d'assimilation. Alors je peux, dès lors, combattre les nationalismes, comme je peux combattre la négation de la nation. Parce que un chrétien n'a rien à défendre. Un chrétien n'a rien à défendre. Parce qu'un chrétien a tout. Vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Et vous, vous avez le monde. Le chrétien n'a rien à défendre, il n'a pas un morceau à défendre. Le chrétien, il a quelque chose à partager. Et il a, si la nation est pertinente, à faire aussi l'impertinence de la nation. La subversion de la miséricorde. Et la défense d'une idée qui donne au final son sens véritable à la vie terrestre et à l'histoire, en se souvenant que ces nations, elles ont un roi, et elles ont un seul roi. Merci.